Au portrait de Mona Lisa, femme du Florentin Francesco del Giocondo, il travailla, d'après Vasari, 4 ans sans pouvoir le terminer, ce que confirme le fait que ce tableau ne fut jamais livré au destinataire, mais resta chez Léonard, qui l'emporta en France. Acheté par François Ier, il constitue aujourd'hui un des trésors du Louvre. Rapprochons ces récits sur le mode de travail de Léonard des innombrables esquisses et études qui nous restent de lui, où chacun des motifs de ses tableaux est traité avec d'infinies variantes. Il nous faut rejeter loin la pensée qu'aucune légèreté ou inconstance dans son caractère ait exercé la moindre influence sur son art. L'art de Léonard se distingue au contraire par une extraordinaire profondeur, une richesse de possibilités telle qu'il devient malaisé de choisir, des exigences presque impossibles à satisfaire et des entraves à l'exécution que n'explique vraiment pas la nécessaire carence de l'artiste au regard d'un idéal qui toujours le dépasse. La lenteur de travail, de tout temps frappante chez Léonard, est déjà signe de cette inhibition et présage de son éloignement final de la peinture. La même cause détermina le destin de la scène, dont Léonard n'est pas irresponsable. Il ne put pas se familiariser avec la peinture à fresque, qui exige un travail rapide, pendant que le fond est humide encore. Aussi prit-il des couleurs à l'huile, qui, en séchant moins vite, lui permettait de traîner en longueur, suivant l'humeur et le loisir, le finissage de l'œuvre. Ces couleurs, cependant, se détachèrent du fond sur lequel elles furent appliquées et qui les isolait du mur. Les défauts de ce mur et la destination du lieu concoururent, semble-t-il, à amener l'inévitable détérioration de l'œuvre. L'échec d'un essai technique analogue semble avoir causé la perte de la bataille d'Anghiari, que Léonard commença à peindre plus tard, en concurrence avec Michel-Ange, sur un mur de la salle du Conseil de Florence, et qu'il laissa aussi inachevé. On dirait qu'un intérêt étranger, celui de l'expérimentateur, fortifia tout d'abord celui de l'artiste pour son œuvre, et ensuite nuisit gravement à celle-ci. Le caractère de l'homme en Léonard offrait bien d'autres traits singuliers et de contradictions apparentes. On ne pouvait méconnaître en lui une certaine inertie ou indifférence. En un temps où chacun cherchait à conquérir le plus d'espace possible pour son activité, ce qui implique un déploiement de vive énergie agressive, Léonard se distinguait par son humeur pacifique, son éloignement de toute lutte de parti et de toute querelle. Il était doux et affable envers tous, évitait, dit-on, la nourriture carnée, trouvant injuste de prendre aux animaux leur vie, et se faisait une joie d'acheter au marché des oiseaux, à seule fin de leur donner la liberté. Il condamnait la guerre et l'effusion du sang. Il appelait l'homme moins le roi du monde animal que la pire des bêtes féroces. Pourtant, cette sensibilité presque féminine ne l'empêchait pas de suivre des condamnés se rendant au dernier supplice, afin d'étudier leurs traits décomposés par l'angoisse et de les reproduire dans son carnet. Cette sensibilité ne l'empêchait pas non plus de concevoir les armes offensives les plus cruelles et d'entrer au service de César Borgia comme ingénieur militaire en chef. Il paraissait souvent indifférent au bien et au mal. Ou alors c'est qu'il ne fallait pas le mesurer de la même mesure dont on se sert pour le commun des hommes. Ingénieur en chef, il accompagna César Borgia, cet adversaire sans scrupules et sans foi, dans la campagne que lui livra la Romagne. Pas une ligne du journal de Léonard ne trahit une critique ou une approbation des événements de ce temps. La comparaison avec Goethe pendant la campagne de France n'est pas entièrement à écarter. Si un essai biographique veut pénétrer jusqu'à l'intelligence de la vie psychique de son héros, il ne doit pas, comme c'est le cas dans la plupart des biographies, par discrétion ou par pruderie, passer sous silence les caractéristiques, la vie sexuelle du sujet. Ce que l'on sait de Léonard à cet égard est peu de choses. Mais ce peu de choses est de grande importance. En ces temps où une sensualité effrénée était en lutte avec un ascétisme sombre, Léonard donna l'exemple d'un froid éloignement de toute sexualité. Ce qui étonne chez un artiste et un peintre de la beauté féminine. Salmi cite de lui cette phrase, qui dénote sa frigidité. L'acte de l'accouplement et les membres qui y sont employés ont une laideur telle que si ce n'était la beauté des visages et les ornements des acteurs et la disposition retenue, la nature perdrait l'espèce humaine. Ces écrits posthumes, qui ne traitent pas seulement les plus hauts problèmes scientifiques mais renferment aussi des pauvretés peu dignes, nous semble-t-il, d'un aussi grand génie, une histoire naturelle allégorique, des fables d'animaux, des facéties, des prophéties, sont chastes, abstinents, pourrait-on dire, à un point qui étonnerait aujourd'hui dans une œuvre littéraire. Ils éludent tout ce qui est sexuel, comme si seul l'éros qui entretient toute vie n'était pas une matière digne de la soif de connaître de l'investigateur. On sait combien de grands artistes se sont complus à jeter la gourme de leur imagination en images érotiques et même obscènes. De Léonard, au contraire, nous ne possédons que quelques représentations anatomiques des organes génitaux féminins internes et de la position du fœtus dans la matrice. Il est douteux que Léonard ait jamais étreint une femme. On ne lui connaît pas non plus d'amitié intime pour une femme, telle que celle de Michel-Ange pour Vittoria Colonna. Apprenti encore chez son maître Verrocchio, il fut dénoncé avec d'autres jeunes gens pour commerce homosexuel défendu. Mais on l'acquitta. Ce même soupçon, semble-t-il, l'atteignit pour avoir pris comme modèle un garçon mal famé. Devenu maître, il s'entoura de beaux petits garçons et jeunes gens qui devinrent ses élèves. Le dernier de ses élèves, Francesco Melzi, l'accompagna en France, resta près de lui jusqu'à sa mort et fut institué son héritier. Sans partager l'assurance de ces biographes modernes, qui rejettent naturellement comme une calomnie exempte de tout fondement la possibilité de relations sexuelles entre lui et ses élèves, on peut tenir pour infiniment probable que les tendres rapports de Léonard avec les jeunes élèves qui partageaient alors sa vie, suivant les mœurs de l'époque, n'acquirent jamais un caractère charnel. On n'est d'ailleurs pas en droit d'attribuer à Léonard un haut degré d'activité sexuelle. Une vie sexuelle et sentimentale si particulière, et la double nature de Léonard, artiste et investigateur à la fois, ne se laisse comprendre que d'une seule façon. Les biographes restent le plus souvent étrangers à toute psychologie. Un seul, à ma connaissance, Solmi, a pressenti la solution de l'énigme. Mais un romancier, Dimitri Sergueïevitch Merejkovski, qui prit Léonard pour héros d'un grand roman historique, a fondé sur la même base sa compréhension de cet homme extraordinaire. Il l'a exprimé, sinon en mots précis, du moins à la façon des poètes, en images. Ainsi Solmi juge Léonard. Mais l'inextinguible soif de pénétrer dans la connaissance de tout ce qui l'entoure, de scruter avec une froide maîtrise les plus profonds secrets de toute perfection, avait condamné d'avance toutes les œuvres de Léonard à demeurer inachevées. Le propos de Léonard, cité dans les conférences florentines, constitue une profession de foi et donne la clé de son être. On ne peut rien aimer ni haïr si on ne le connaît pas auparavant. Ainsi, l'on n'aurait pas le droit de rien aimer ou haïr sans en avoir acquis une connaissance approfondie. Et Léonard le répète dans un passage du Traité de la peinture où il semble se défendre du reproche d'irréligion. Ses censeurs devraient se taire, car telle est la manière d'apprendre à connaître le maître ouvrier de tant de choses admirables et le moyen d'aimer un si grand créateur. En vérité, un grand amour ne peut jaillir que d'une grande connaissance de l'objet aimé. Et si tu connais peu celui-ci, tu ne pourras l'aimer que peu ou point. Ne demandons point à ces assertions de Léonard la révélation d'une importante vérité psychologique, car ce qu'elles affirment est notoirement faux. Et Léonard devait le savoir aussi bien que nous. Non, l'amour ou la haine des hommes n'attend pas pour se fixer d'avoir étudié et reconnu la nature des choses. Les hommes aiment par impulsion et pour des raisons de sentiment qui n'ont rien à voir avec la connaissance et dont la réflexion et la méditation ne savent qu'affaiblir la force. Mais la pensée de Léonard est que les hommes pratiquent un amour qui n'est pas le parfait, le véritable amour. On devrait aimer autrement, tenir en bride le sentiment, le soumettre au travail de la réflexion et ne lui laisser le champ libre qu'après l'épreuve de la pensée. Ainsi Léonard entend nous apprendre que les choses se passent ainsi en lui. Et idéal à poursuivre, tout le monde devrait en faire de même en ce qui concerne la haine et l'amour.